18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver. C'est la rentrée pour tout le monde, la reprise. Et puis, c'est un plaisir, quand je dis plaisir, parce que, vous savez, les ondes nous gagnent. Les ondes nous imprègnent. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci de votre fidélité, chers amis. C'est parti au sommaire. Désinformés à noter désormais tous les jours. Nouvel horaire, nouveau créneau, 18h. 19h30, c'est votre rendez-vous désinformé, quotidiennement du lundi au vendredi, vous le savez. Et alors, donc des invités pour parler évidemment de l'actualité, je recevrai tout d'abord Karim Amlal et puis Brahim Asloum, qui était de la délégation du président Emmanuel Macron en déplacement pour une visite d'amitié donc en Algérie. On reviendra, on va débriefer, on va prendre le temps évidemment de voir ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé avec d'abord l'ambassadeur chargé de la Méditerranée et puis ensuite notre ancien champion de boxe Brahim Asloum. Et ensuite tout à l'heure, les auditeurs ont la parole. Vous savez que l'imam Ikoussen est bien fait polémique. Aujourd'hui, il est introuvable. Paraît-il, eh bien, sachez-le que je vais ouvrir l'antenne au 01 53 48 3000 pour nous livrer, tout simplement, votre avis, vos commentaires. 18h30, 19h30, enfin plutôt 18h30, le quoi de neuf, votre rendez-vous immanquable avec les éditorialistes, nos spécialistes qui viendront venir à l'antenne, tout simplement faire part de leur regard aiguisé, de leur regard satirique sur l'actualité. Et puis 18h35 jusqu'à 19h30, vous le savez, c'est le face-à-face avec nos débatteurs influenceurs, politiques, chefs d'entreprise, intellectuels, bref, tout le monde vienne livrer et confronter leur point de vue. Voilà ce qui vous attend. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est parti, tout de suite, les informer plus que jamais, vous le savez, pour cette saison, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Retour sur l'actualité, le déplacement du président Emmanuel Macron en Algérie, où il s'est déroulé plein d'événements, notamment celui qui a retenu votre attention avec, vous savez quoi, Disco Maghreb, qui a cartonné sur les réseaux sociaux. Bref, je vous rassure, il n'est pas parti, le président Macron, juste pour faire un clin d'œil à Disco Maghreb à Oran. Bref, pour en parler, tout d'abord, notre premier invité, l'ambassadeur chargé de la Méditerranée, monsieur Karim Amlal.
Les informés. L'interview.
Et l'interview, c'est avec Karim Amlal, l'ambassadeur chargé de la Méditerranée. Bonjour, monsieur l'ambassadeur.
Bonjour, Adil, comment ça va?
Eh bien, écoutez, je vais bien. C'est la reprise, c'est la rentrée et c'est un plaisir de vous retrouver. Et vous, comment vous allez?
Mais moi, je vais très bien. Je vais encore mieux au retour d'Alger.
Bon, comment ça s'est passé tout d'abord? Parce que d'abord, j'aimerais vous faire réagir sur cette photo du patron de Disco Maghreb. Vous savez, Disco Maghreb, c'est à Oran.
Voilà,
c'est le lieu d'excellence de production de tous les Rayman. Alors, paraît-il, vous-même, vous avez tweeté une photo de Cheb Macron.
Bah oui, vous connaissez l'humour des Z, hein, Adil.
Oui.
C'est vrai que les photos satiriques fleurissent après cette visite à Alger, mais surtout à Oran et dans ce lieu mythique de la musique raï qui est Disco Maghreb, où le président a rencontré Boualem et puis il a surtout rencontré Chaba Zawaniya.
Oui, c'est vrai.
Avec laquelle il a longuement discuté et d'autres artistes qui étaient présents. C'était un moment qui était à la fois étonnant et émouvant.
Émouvant, étonnant, justement le mot est bien déployé. Étonnant parce que ça a surpris beaucoup justement de personnalités sur les réseaux sociaux. Ils trouvaient que c'était pas le moment d'aller rencontrer Disco Maghreb. Est-ce que c'est votre avis? Quelle était la volonté d'Emmanuel Macron d'aller justement rencontrer Cheb Zawaniya et le patron de Disco Maghreb?
Vous savez, le président Macron, dans ce déplacement, a eu des moments d'échange politique sur des sujets extrêmement importants pour la relation bilatérale à Alger, avec le président algérien, avec un certain nombre de membres du gouvernement, avec le premier ministre. Et puis il a souhaité sortir d'Alger, aller ailleurs, parce que l'Algérie ne se résume pas à Alger. Et Oran, effectivement, lui a paru être une étape importante, intéressante,
oui.
Parce que c'est une ville qui est importante pour la jeunesse,
Oui.
Et vous savez que tout ce déplacement a été placé sous le signe de la jeunesse.
Oui.
Et donc, à Oran, le président a été rencontré des personnalités de la société civile oranaise, Kamel Daoud, on a été à Santa Cruz, qui est aussi un lieu mythique d'Oran, et jusqu'au Maghreb. C'était une étape parmi d'autres, parce que c'est un lieu qui est iconique. Et c'est un lieu qui est iconique pour la jeunesse algérienne, mais aussi... Et c'est très
mais quel était le message principal adressé à la jeunesse algérienne ?
Bon, Disco Maghreb, attention, hein, Adil, vous le savez bien, c'est important pour la jeunesse algérienne.
Oui, oui.
Vous connaissez toutes les
stars. Oui, on connaît l'histoire.
Mais c'est aussi
Chem Mami, Chem Khaled.
Pour une grande partie de la jeunesse française et de la jeunesse des quartiers, avec nous d'ailleurs dans la délégation, il y avait des personnalités importantes de la diaspora algérienne. Et donc c'est vrai que c'est pour rendre hommage à cette jeunesse algérienne, à ceux qui l'ont inspirée, à cette musique-là en tant qu'elle est une musique algérienne, une musique du Maghreb et une musique des deux rives, une musique qui est aussi une musique française. Donc on connaît la destinée d'artistes comme Khaled par exemple, qui est d'ailleurs sorti de Disco Maghreb. Ben, je crois que le président Macron a souhaité faire un clin d'œil effectivement à la jeunesse algérienne, mais pas seulement.
Bon, on va parler des enjeux justement à la fois géoéconomiques, géostratégiques entre la France et l'Algérie. Ce voyage était important pour Emmanuel Macron, Karim Amlal, monsieur l'ambassadeur. Puisque vous le savez, je ne vous l'apprends pas, la Russie a donné un signal dès ce jeudi de couper le gaz. Qu'en est-il des discussions en cours pour accélérer les livraisons de gaz avec l'Algérie et la France ?
Alors, n'en déplaise à beaucoup de commentateurs, la question du gaz n'était pas du tout au centre des discussions, même si c'était évidemment un sujet de discussion. Et c'est un sujet de discussion, d'ailleurs, qui est tout à l'honneur des Algériens qui tiennent à diversifier leurs clients et à faire en sorte que leur gaz, eh bien, approvisionne l'Europe et parmi les pays européens, la France. Mais ça n'était pas un sujet majeur de discussion. D'abord parce que vous savez, les questions des livraisons de gaz, des contrats gaziers, ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps. Ça ne se fait pas au cours d'un rendez-vous, d'un déplacement de ce type. Ce sont des discussions au long cours. Et puis, surtout, même si l'impulsion politique est importante, et on sait qu'elle est sur ces sujets-là, ben, ce sont des entreprises qui sont à la manœuvre. Et en l'occurrence, une entreprise comme Total, une entreprise comme Engie. Donc, je crois que cet échange que les présidents ont eu, que les autorités françaises et algériennes, mais aussi que les entreprises ont pu avoir, eh ben, peut-être va porter ses fruits dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et j'ajoute que c'est pas une honte hein, de parler de pétrole ou de gaz ou d'approvisionnement. Au contraire, la France, l'Europe en ont besoin. C'est très bien et très important qu'elles diversifient leurs approvisionnements. Et c'est honnêtement, et c'est le méditerranéen et le franco-algérien qui vous parle, c'est encore mieux que la France s'approvisionne au Maghreb et en Algérie.
Mais qu'en est-il des discussions justement pour la livraison de gaz ? Paraît-il que ça avance, mais bon, ça peine tout de même à les tractations ont du mal à prendre forme.
Oui, parce que je vous le dis, ça prend du temps. Il y a des problèmes techniques et des problèmes de capacité notamment et de renforcement des capacités techniques. Il y a un problème aussi de capacité de livraison et d'approvisionnement. Donc tout ça prend du temps, va prendre du temps, les discussions avancent et nous verrons ce qu'il en sortira.
Dites-moi, monsieur l'ambassadeur, qu'en tirez-vous finalement comme leçon ? Qu'en tire aussi le président Emmanuel Macron de son déplacement, de cette visite d'amitié consacrée donc à Alger, à Oran ? Qu'est-ce que vous en tirez finalement vous-même et qu'en tire le président de la République ?
Je crois que nous sommes tous très satisfaits de ce déplacement qui était extrêmement important, essentiel même dans un contexte qu'on connaît. On sort d'un petit épisode de brouille où les relations n'étaient pas aussi bonnes qu'auparavant. On avait besoin de ce déplacement de part et d'autre, hein, aussi bien les Algériens que nous autres Français, pour réamorcer la relation. C'est vraiment l'objectif.
Quand vous dites amorcer la relation, c'est quoi ? C'est multiplier les signes d'amitié, justement ?
Oui, faire en sorte que notre relation soit réamorcée, réenclenchée, sur des bases aussi un peu nouvelles, parce que on a beaucoup parlé de mémoire, c'est un sujet important, mais parler de mémoire, ça ne doit pas aussi empêcher de parler d'avenir. C'est pour ça que le président Macron a souhaité placer la jeunesse au cœur de ce partenariat renouvelé, avec une relance de la coopération dans tous les domaines, économique, politique, culturel, sécuritaire. Et je crois que c'était l'objectif de ce déplacement que de recréer du lien, recréer de la confiance. On en avait besoin et faire en sorte que, à l'avenir, la relation entre deux pays, deux grands pays aussi importants que la France et l'Algérie, puisse se déployer de façon la plus épanouie possible. Et l'objectif, effectivement, c'est que ce déplacement permette de recréer ce climat de confiance. Je crois que l'objectif est atteint et même largement dépassé.
Eh bien, merci, monsieur l'ambassadeur chargé de la Méditerranée, monsieur Karim Amlal.
Merci
d'avoir été avec nous et au plaisir sur nos antennes.
Au plaisir, toujours un plaisir.
Merci.
Bientôt et bonjour à tous vos auditeurs.
Merci, je laisserai les auditeurs justement réagir au 01 53 48 3000. Autre invité, vous le savez, c'est notre champion olympique à Sydney, l'ancien grand boxeur Brahim Asloum. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour,
comment ça va, mon cher Brahim?
Ça va très bien.
Bon, la rentrée, ce fut fructueuse.
Oui, la rentrée, pour ma part, hein, pour la gestion de l'Omnisport à Levallois-Perret. Et puis ce retour, bien évidemment, de ces trois jours en Algérie.
Alors justement, vous avez été retenu par le président de la République, Emmanuel Macron, sur ce déplacement de cette visite d'amitié. Qu'est-ce qui vous a frappé durant ce voyage, puisque vous avez été justement au plus proche du président de la République? D'abord, vous avez échangé avec lui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Brahim Asloum?
On s'est dit énormément de choses, mais c'est vrai qu'on... Moi, je faisais partie de la délégation sport. Donc, bien évidemment qu'on a échangé à travers les Jeux 2024, à travers cette jeunesse qui avait besoin aussi de s'exprimer, de s'épanouir. Et le sport était un bon levier entre ces deux nations.
Un bon levier, justement. Est-ce que vous, justement, dans le cadre de cette visite d'amitié, quels ont été les mots que vous avez adressés à Emmanuel Macron sur ce séjour qui s'est tenu donc à Alger, à Oran notamment? Qu'est-ce qui vous a frappé vous-même?
Cette envie de partage entre l'Algérie et la France. Nous avons les Jeux Olympiques 2024. C'est vrai que c'est un outil assez exceptionnel, déjà pour les sportifs en général. Mais c'est vrai que pour la jeune génération qui participera, en tout cas la jeune génération algérienne qui participera aux Jeux Olympiques ici à Paris. Donc voilà, c'est des échanges, cette envie de pouvoir aider ces jeunes à s'épanouir, de faire des échanges avec nos structures ici en France, d'avoir un vrai partenariat et d'aider ces jeunes encore à progresser.
Est-ce que ce déplacement en Algérie, vous-même d'origine algérienne, est-ce que vous êtes revenu évidemment avec le sac plein de réseaux, de rencontres justement que vous avez fait sur place? Quand vous étiez sur place, est-ce qu'il y a des éléments, des choses, des rencontres sur lesquelles vous vous êtes arrêté, Brahim Asloum?
Je suis revenu avec beaucoup de fierté, surtout l'Algérie est le pays de mes parents, c'est mes origines, et de voir cette envie... mutuelle entre l'Algérie et la France de pouvoir se réconcilier. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est cette envie d'ouvrir les archives et de mettre tout carte sur table.
Oui.
Et de voir les choses en face et de les accepter et de pouvoir avancer et de regarder devant nous, quoi, pour le futur.
Qu'est-ce que vous avez envie d'adresser comme message justement dans le cadre de cette visite d'amitié à celles et ceux, par exemple, qui vous écoutent ici, en Algérie, partout? Vous avez envie de leur adresser quoi comme message, Brahim Asloum?
Qu'il faut continuer à avancer, regarder ce qui se présente devant nous, s'entraider, d'être forts les uns les autres, envie de dépasser certaines choses qui ont dû blesser beaucoup de personnes. Mais là, aujourd'hui, il y a une vraie envie de construire le futur. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus dans cette démarche. C'est ce que je retiens, d'ailleurs, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est cette envie, vraiment, de dépasser ces conflits, ces contraintes, pour voir ce qu'il y a devant nous. Et d'avoir un vrai partenariat 50-50, gagnant-gagnant.
Oui.
En tout cas, voilà, c'est ce qui s'est dessiné. C'est ce que j'ai ressenti chez Monsieur le Président de la République. À travers notre retour dans la vue.
Vous avez dit tout à l'heure que justement c'est aussi ce déplacement, la préparation, en tout cas les préparatifs pour les Jeux Olympiques qui se déroulent à Paris prochainement. Dites-moi, comment se prépare votre rentrée justement, Brahim Asloum?
Elle se prépare comme toutes les rentrées, avec beaucoup d'activités. C'est le moment des inscriptions, de la mise en place des sections sportives. Donc, il y a beaucoup de travail. Alors, aujourd'hui, je gère un omnisport, donc j'ai 33 sections sportives. Donc, je passe aussi bien de la boxe, de l'escrime, de tennis de table, de la gymnastique, de la natation. Donc, c'est assez riche. Et puis, voilà, on essaie de mettre en place. Et ce qui est agréable dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que je parle aussi bien de haut niveau que de sport santé, sport loisir, sport handicap. Donc voilà, c'est assez riche et plaisant.
Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle reprise, mon cher Brahim Asloum.
Merci,
bonne rentrée
merci
et au plaisir aussi. De se retrouver sur notre antenne.
Et un grand bonjour à tous les auditeurs de Beurre FM.
Merci, mon cher Brahim Asloum. Bonne rentrée, merci, on vous embrasse. À bientôt. Allez, vous le savez, je vais ouvrir. D'abord, je vais marquer la pub. Et ensuite, je vais ouvrir l'antenne. L'antenne, parce qu'on parle de l'imam Ikoussen, qui est en fuite. Mais bon, est-ce que vous trouvez justement cela normal aujourd'hui? On va prendre le temps, 01 53 48 3000, de parler de l'imam Ikoussen. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle de lui. Imam qui est recherché aujourd'hui, qui est inscrit même au fichier des personnes recherchées, puisque le Conseil d'État a validé dans la journée son expulsion décidée par Gérard Darmanin. 01 53 48 3000, je vous attends tout de suite, juste après la pub. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan. 01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole.
C'est votre numéro 01 53 48 3000. Je vous attends tout de suite. Le standard est ouvert. Je vous propose deux sujets. Deux sujets, les 18h24. Celui de la France, donc Algérie. La visite d'amitié, évidemment, il y a quelques jours entre la France et l'Algérie. D'où le déplacement de cette visite avec Emmanuel Macron qui s'est déplacé à Alger et à la fois à Oran. Je vous propose donc de venir commenter, intervenir, de nous livrer votre point de vue. 01 53 48 3000. Et puis le second sujet qui a retenu notre attention aussi, c'est celui de l'imam Hassan Ikoussen, qui est recherché pour être expulsé de France. Alors paraît-il qu'il serait en Belgique. Je voudrais vous entendre aussi, puisque le préfet des Hauts-de-Seine, lui, monsieur Georges-François Leclerc, a affirmé aujourd'hui que l'imam, donc Hassan Ikoussen, est recherché depuis la validation de mardi dernier de son expulsion par le Conseil d'État, qui était susceptible d'avoir pris la fuite pour se rendre en Belgique. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, hein, un scénario qui était pour pourtant privilégié. 01 53 48 3000, que cherche-t-on notamment? Alors, je voudrais vous entendre, évidemment, exprimer votre point de vue, parce que c'est important. L'imam, que vous connaissez certainement, il n'est pas que imam, il est conférencier, professeur, il a eu l'occasion de faire à maintes reprises la tournée hexagonale, la tournée en France, où il va à la rencontre justement des quartiers populaires, des jeunes, de celles et ceux qui viennent participer à ces conférences. Ces conférences, moi j'ai eu l'occasion d'interviewer l'imam Ikoussen, Hassan Ikoussen. Alors il y a plein de choses qui se disent. Bon, bref, si vous-même, vous avez vécu des conférences de Hassan Ikoussen, de l'imam, du conférencier, eh bien venez, 01 53 48 3000. Je crois qu'on a un auditeur de Toulouse. Ah, il est plus là, Tarek. Bon, bah écoutez, 01 53 48 3000, je vous attends. Justement, pour parler de l'imam. Alors, beaucoup de choses se racontent que l'imam serait mis en cause pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République. On le qualifie même de délinquant. Bon, ça, c'est évidemment, c'est ce qui est soustrait à un arrêt d'expulsion. Alors, je voudrais qu'on prenne le temps, justement, d'en parler. Le Maroc, lui, de son côté, puisqu'il est d'origine marocaine, a suspendu son laissez-passer consulaire. Donc, c'est tombé aujourd'hui. On dit clairement que le prédicateur, afin de permettre son expulsion vers la France, le pays, et le Maroc a fait savoir d'une source proche de ceci qu'ils ont suspendu le laissez-passer consulaire. Alors, je vous attends. Votre avis, vos commentaires au 01 53 48 3000, nous vous attendons donc en direct. Vous le savez, les informés avec ce nouvel horaire, effectivement, de 18h jusqu'à 19h30. Et là, je laisserai part donc aux auditeurs tous les jours de 18h10 jusqu'à 18h30 cet espace qui vous est dédié donc pour venir échanger, parler, livrer votre commentaire tous les jours dans les informés de 18h10 jusqu'à 18h30. C'est votre créneau justement sur des sujets d'actualité. Et les deux que je vous ai proposés aujourd'hui, c'est le Maroc qui suspend le laissez-passer, et puis à la fois le Conseil d'État qui a validé donc l'expulsion de l'imam, du conférencier Hassan Iqoucen. Je sais que les réseaux sociaux, c'est évidemment, sa suspension a beaucoup été commentée. Nous allons recevoir Amar de Paris. Bonjour Amar.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, vous allez bien? Vous avez passé de bonnes vacances?
C'est la reprise, c'est les vacances qui se sont bien déroulées. Et vous-même, Amar?
Très bien, moi je suis depuis longtemps, depuis le mois de juillet. Hein. Je n'ai plus de travail depuis
le mois de juillet. Ah, et donc vous, ça fait un moment déjà.
Voilà, c'est ça.
Bon, alors écoutez Amar, vous avez entendu parler de l'expulsion du conférencier, de l'imam... Comment?
Depuis un certain temps, bon, je suis un petit peu de... Pas trop près, mais un peu, je suis... Je crois, parce que je vois l'imam, qui c'est, je vois l'imam Hassan Iqoucen, oui.
Oui.
Donc, écoutez, il y a, ce que j'ai lu dans la presse, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, la personne, le ministre qui veut l'expulser, lui a demandé de l'aide pour se faire élire dans le Nord.
C'est ce que j'ai lu aussi, un peu comme vous. Bon.
Voilà, donc. Et puis, cet imam-là, il est sur toutes les vidéos, sur les réseaux sociaux. Moi, je voudrais bien qu'on me trouve ses propos discriminatoires, antisémites.
Donc, alors, le qualifie de contraire aux valeurs républicaines, de délinquant.
Pour ne pas encombrer l'antenne, juste, monsieur, qu'on nous montre les vidéos, les paroles discriminatoires, antisémites, les propos qui dérangent de cet imam-là. Par contre, il y a une chose qui dérange dans cet imam-là,
oui.
C'est son intelligence.
Oui.
Voilà, sa clarté dans les paroles.
C'est un bon orateur.
C'est vrai. Cet imam auprès de la société, auprès de certains jeunes, là, ça les dérange. Oui. Comme ça a dérangé Tariq Ramadan aussi.
Hmm.
Maintenant, voilà, allez, c'est fini, c'est la porte ouverte. Voilà. Un ministre voyou, pas condamné, hein. On sait pourquoi il a été poursuivi. Hein. Et les ministres, voilà, il fait ce qu'il veut.
Bon.
Tant pis pour nous. Tant pis pour les musulmans de France parce qu'on mérite ça.
Pourquoi?
Parce qu'on ne nous considère pas, monsieur, dans ce pays. Mmh. Et parce qu'on se laisse faire. Parce qu'on ne va pas voter. Parce qu'on ne sanctionne pas par le vote, par l'urne, monsieur.
Mmh.
Parce qu'on ne pèse pas dans la balance. Mmh. On n'est que des tickets.
Vous considérez, Amar, que les Français de confession musulmane, c'est aussi de leur faute, parce qu'ils ne bougent pas assez.
Oui, monsieur. Oui, c'est de notre faute. Voilà, on n'est que des tickets, des numéros, dans les grandes surfaces. On n'est que des consommateurs, monsieur.
Bon,
pas tous, hein. Il y a comme cet imam-là, il y a comme d'autres personnes qui essaient de nous représenter, qui essaient d'élever le niveau. Et ces gens-là, on leur fait la chasse, monsieur.
Bon.
Voilà.
Votre impression, c'est qu'on fait la chasse à l'imam Iqoucen?
Il n'y a pas qu'à lui, hein.
Oui,
il y a
plusieurs.
Pas qu'à lui. Et monsieur Marwan Mohamed, et Tariq Ramadan, et un tel. Enfin, c'est...
Oui. Bon. Écoutez, non, mais merci. Vous le savez, vous vous exprimez en toute liberté d'expression ici. Hein.
Là, moi, je le soutiens à 2000%. Pas à 100%, à 2000%.
Bon. Voilà. Ben, écoutez, vous l'avez dit librement.
Qu'Allah lui apporte son aide. Et j'espère juste qu'on arrivera à lever la tête et un jour à réfléchir. Pas avec notre estomac, mais avec notre tête.
Eh bien, merci Amar d'être intervenu.
Vous en prie, puis bon courage.
Merci à vous. Nouvel horaire désormais, 18h, 19h30, c'est le Quoi de Neuf, c'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, mercredi, nous démarrons. Ce billet d'humeur, c'est édito par le docteur Majid Sioussine. Bonjour docteur.
Bonjour mon cher Adil.
Comment allez-vous? C'est la reprise, ça va?
Ça va, écoutez, la reprise, elle a commencé depuis longtemps. Hein.
Eh bien, la reprise, elle a commencé depuis longtemps, y compris maintenant avec vous. C'est la parole vous est donnée concernant donc ce billet d'humeur consacré à l'actualité. On vous écoute, c'est parti pour le Quoi de Neuf.
Ah ben voilà, ça y est Adil, hein, c'est la rentrée. après avoir pollué les quatre coins du monde, vous êtes de retour en France. Parce que, voyez-vous, je tiens à ce que vous le sachiez. Si cet été la forêt des Landes a brûlé, c'est de votre faute. Si les vieux sont morts de déshydratation pendant la canicule, vous et vos pareils, vous êtes coupables. Et ce n'est rien de le dire. À force de faire du jet ski avec Macron, vous nous avez cassé la planète. Ah, c'est facile de revenir le sourire aux lèvres. Venir nous narguer, vous, nous qui nous devons nous contenter de 15 jours de vacances de 3e classe, faute d'avoir les moyens somptuaires dont vous disposez. Et puis, ça va pas s'arranger. Il paraît que vous êtes à LCI maintenant. C'est pour vous faire construire votre pavillon. Vous êtes rentré chez Bouygues.
C'est ça, vous avez tout compris.
Ou alors pire, vous êtes dans le bâtiment parce que vous êtes devenu franc-maçon, voire illuminati. Et alors, je comprends mieux votre volonté de sabotage de la planète. Vous faites partie du grand complot. Dans 2 semaines, vous balancez des barils de virus de la grippe, vous faites sauter des silos à blé et des dépôts de carburant, et puis vous braquez un camion de moutarde, dans juste histoire d'accélérer le bazar ambiant. Ah, vous rigolez, hein?
Vous rigolez, hein?
Profitez-en, car ça va pas durer.
Non, ça c'est sûr.
Le camarade Gérald Darmanin nous prépare un débat sur l'immigration, et vous prendrez peut-être le même avion que votre cousin, l'imam Iqiyoussen.
Justement, je propose à nos auditeurs et puis nos débatteurs tout à l'heure de commenter l'actualité concernant donc l'imam Hassan Iqiyoussen qui est expulsé, y compris la suspension, le Maroc qui a suspendu le laissez-passer consulaire du conférencier afin de permettre son expulsion autorisée par le mardi, donc il y a quelques jours, par le Conseil de l'État.
Bah écoutez, je trouve que le Maroc est bien compatissant.
Bon. Eh bien, écoutez, je laisse le soin aux auditeurs de venir commenter cette actualité. Merci, mon cher docteur. Je vous souhaite une belle reprise. À la semaine prochaine, sans faute.
Sans faute, mon cher. À bientôt.
Merci. 01 53 48 3000. Nous ouvrons la pub. Seconde pub et on retrouve à la fois vous-même, les auditeurs, 01 53 48 3000. Venez vous exprimer sur l'expulsion de l'imam conférencier, donc un peu comme Amar de Paris. 01 53 48 3000. Et puis le face-à-face aujourd'hui, ce soir, c'est avec Gamal Abila et Karim Alouach. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan. 01 53 48 3000, Les Informés vous donnent la parole.
Continuez à vous donner la parole, 01 53 48 3000, j'ouvre l'antenne. Je voudrais vous entendre, nouvel horaire à noter, à inscrire pour cette rentrée. Les Informés, c'est 18h-19h30, avant de retrouver le face-à-face avec Gamal Abila et Karim Alouache. Tiens, je vais accueillir Sandra de Paris. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Comment ça va, ma chère Sandra?
Ça va, merci.
Bon, comment se passe cette rentrée?
Il n'y a plus de rentrée, je vais être vacances cet été.
Mais, qu'est-ce que vous avez été, vous avez été puni?
Je travaille. Non, je les prends plutôt en fin septembre.
Vous avez raison. Après, la cohue.
Moins de monde. Exactement.
Bon.
Je voulais juste m'exprimer sur le sujet.
Bien sûr. Ben c'est le but.
Je connais pas forcément l'imam. Je ne sais pas ce qu'il véhicule comme message, etc. Mais par contre, je trouve que la décision d'expulsion, elle est quand même assez forte et injuste quelque part, parce que il y a plein d'autres personnages publics qui ont des propos complètement scandaleux et inappropriés sur des plateaux télévisés.
Oui.
Sans citer personne qui, à juste titre, pourrait s'étendre à cette expulsion si on va dans le sens de M. Darmanin. Parce que là, c'est complètement inadmissible, en fait. On expulse une personne qu'on n'aime pas son discours. Là, on va expulser beaucoup de personnes.
Vous, ça vous choque, la validation du Conseil d'État. Vous la trouvez disproportionnée?
Complètement.
Bon. Pourquoi vous dites ça? Quels sont les éléments qui vous font dire ça?
Mais parce que, en fait, la liberté d'expression, elle est censée être un droit pour tous, sauf qu'elle est applicable par parcimonie selon les messages qu'on souhaite véhiculer. Après, bien évidemment, tout discours raciste, antisémite, islamophobe, etc., normalement, devrait être puni à juste titre et de la même façon. Et non pas en privilégiant plus un discours qui est plus choquant ou pas par des pays qui font on a bien des procédures qui sont adaptées.
Oui.
Par rapport à ce genre de discours, par exemple, il y a des discours intéressants pour qu'ils soient seuls. Oui. Ces discours-là. Et il y a des amendes, il y a des années de prison qui sont prérequis selon la gravité des propos, etc. Mais là, une expulsion directement.
Ça vous choque. Ça vous choque.
Il est français. On va faire quoi? On va le déchoir de sa nationalité.
Amar, un auditeur de Paris, disait. Un peu comme vous, qu'il n'était pas du tout d'accord, qu'il soutenait l'imam Hassan Ekoussen et qu'il trouvait que la décision était choquante. Vous partagez son point de vue ?
Elle est choquante, oui, dans le sens où si on laisse faire ce genre de décision et exécuter ce genre de décision, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Sous prétexte qu'un ministre n'aime pas un discours, les personnes vont s'expulser du jour au lendemain.
Oui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, enfin moi j'ai 30 ans, c'est-à-dire que nous, là, la génération d'enfants de migrés, on est français, on est non.
Ouais, Sandra, on a quelques difficultés. Hein. On vous capte plus du tout, Sandra. Bon, c'est le direct. Hein. Ah, vous êtes revenu. Le signal est revenu.
Je disais que moi je suis une enfant de migrés. Je suis française, je suis née en France, mais je suis binationale.
Oui.
Demain, un des enfants d'immigrés avec la binationalité a un discours très, très limite, voire condamnable.
Oui.
On ne décide pas de condamner, on décide d'expulser. On expulse des personnes qui sont nées en France. C'est pas possible.
Oui. Bon.
Moi, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi.
C'est la porte ouverte à tout. C'est ce que vous dites, Sandra de Paris. Merci d'être intervenue de façon libre.
Merci à vous.
Vous continuez de nous appeler, chers auditeurs, 01 53 48 3000. Nous vous attendons au standard pour réagir à la fois donc sur l'expulsion de l'imam Hassan Ekoussen, conférencier connu d'ailleurs, hein, puisqu'il a parcouru la France, il a parcouru les quartiers populaires. Justement, nous allons entendre les débatteurs influenceurs que nous avons eu tout de suite. Jingle.
Les informés. Le face-à-face.
Et vous continuez de nous appeler au 01 53 48 3000. Je continue de vous prendre. Bonjour Gamal Abina.
Bonjour.
Attendez, on va ouvrir votre micro d'abord. Comment ça va mon cher Gamal?
Très bien, et vous? Bien bronzé, ce que je vois.
Attendez, on va ouvrir tous les micros parce qu'on ne vous entend pas du tout. C'est la reprise. C'est normal,
oui,
c'est normal.
Normal.
Gamal, vous disiez...
Ça va très bien, vous avez l'air bien bronzé, vous êtes bien.
Oui, bah écoutez, c'est le soleil. Hein.
Bon, ouais, bah,
c'est le soleil. C'est le soleil, on bronze bien. Karim Alouache, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Acteur politique, mais également aussi dans la finance. Gamal Abina, acteur politique, mais également aussi commentateur de la chose politique. Messieurs, c'est la reprise, tout va bien pour vous?
Bah, très bien.
Vous aussi, vous avez bonne mine. Regardez, Karim Alouache, il arrive tout cramé, tout bronzé. Il est venu avec le sourire, regardez-le.
Le Pepsodent, le petit Lacoste.
Je vois ça.
Le petit Lacoste, le petit Croco.
Ouais, au passage, il fait la pub, vous avez vu?
Ouais, ça fait exprès. Ouais.
J'ai le droit d'avoir des sponsors.
Voilà. Bon, messieurs, c'est la reprise. Bonne reprise à vous tous.
Merci.
Nous allons démarrer avec ce premier sujet. Vous savez, c'est le Conseil d'État qui a validé dans la journée sur l'expulsion décidée par Gérard Darmanin. Je fais référence à l'imam conférencier Hassan Ekoussen, et puis le Maroc, vous savez, qui s'est exprimé aussi il y a à peine quelques heures, qui a suspendu le laissez-passer consulaire permettant l'expulsion d'Hassan Ekoussen auprès de plusieurs sources.
Oui.
Donc, à Rabat, s'il est arrêté, Hassan Ekoussen ne peut plus être expulsé pour le moment, même si, selon plusieurs sources policières, les discussions se poursuivent entre la France et le Maroc. Je voudrais vous entendre, messieurs. Que retenir de cette affaire commentée depuis plusieurs semaines concernant l'imam conférencier d'Hassan Ekoussen, Gamal Abina?
Alors oui, malheureusement, je vais vous faire faux bond parce que je pars d'ici un quart d'heure.
Et vous le connaissez, vous?
Oui, je le connais personnellement, je l'ai rencontré. Alors, c'est pas un ami, hein, mais je l'ai rencontré parce qu'à l'époque, j'étais très en colère parce que j'ai vu qu'il avait voulu donner une conférence avec Alain Soral, comme son beau-frère l'avait déjà fait au préalable. Je parle de l'imam Obrou qui avait donné, Tariq Obrou, qui avait déjà donné une conférence avec Soral, donc avec l'extrême droite. Et il se trouve qu'on a été le voir à Évry. Il avait fait un saut à Évry, donc on y était allé à plusieurs militants, et je lui ai parlé, je lui ai dit c'est intolérable de faire une conférence avec ce.
C'était il y a longtemps, ça,
il y a
au moins.
Il y a longtemps, oui. C'est,
il y a plus
c'est 2014,
10 ans.
C'est l'époque 2014. Ce qu'on lui reproche aujourd'hui, ça ressemble maintenant. Et donc en 2014, je lui ai dit c'est pas acceptable, on peut pas donner la parole à cette vermine parce que c'est un statut d'extrême droite raciste. Et qu'est-ce qu'il a répondu? répondu, et malheureusement, il a répondu ce qu'il ne fallait pas répondre. Je lui ai dit, il y a quand même un truc incroyable, vous savez très bien qu'il est raciste, antisémite, qu'il déteste les Maghrébins en général, comment faire une erreur pareille ? Et qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit, mais oui, mais Alain Soral a de l'audience. Et je lui ai répondu, mais le diable a de l'audience, est-ce que vous allez faire une conférence avec lui ? Et là, ce qu'il paye aujourd'hui, la conférence a été annulée à la suite de ses pressions et de ses... On l'a convaincu en somme, mais ce qu'il paye aujourd'hui, effectivement, c'est ses dérives, à savoir que il y a une époque, on avait une certaine frange de la population maghrébine qui, à cause de Dieudonné, a commencé à prêter oreille aux propos de Soral qui mélangeait l'antisionisme et l'antisémitisme de façon habile, parce que lui, c'était un véritable raciste, aucun problème, qui déteste les Juifs de façon très claire, et qui, pour satisfaire sa détestation, a voulu pousser les Maghrébins à la haine du Juif. Sauf que le sionisme n'est pas le judaïsme. C'est deux choses qui n'ont rien de commun. C'est deux choses différentes. Et on a voulu mélanger le genre parce qu'évidemment, ça l'a rangé dans son antisémitisme de base. Et les Maghrébins sont tombés dans le piège. Alors, ils en sont sortis, Dieu merci. Mais à un moment donné, ils ont eu cette tendance à vouloir dire bon, la Palestine.
Mais cette affaire, elle date de 2014. Ça, c'est vrai que j'avais suivi ça.
Oui.
Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le ministre Darmanin revient sur cette affaire qui date de 2014 ou pas du tout ?
Alors, non, ce qui se passe, c'est
que. Parce qu'il y a quand même une histoire qui mêle le imam Hassan Iqoussen et le ministre Gérard Darmanin.
Tout à fait. Alors, ce qui se passe, bon, l'histoire qui l'amène, en règle générale, dans les politiques locales, c'est de jouer sur les influenceurs, sur les hommes d'église, de mosquées, de synagogues, pour faire en sorte d'avoir des ouailles qui les suivent. Mais ce qui se passe là aujourd'hui, c'est que. Ah, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Depuis que M. Macron est arrivé aux commandes, vous avez quand même remarqué que les deux premières années, ça allait à peu près bien, mais que c'est l'année au cours de laquelle Tariq Ramadan est tombé. Et ça a été une sorte de déclenchement automatique de la chute de toutes les icônes musulmanes de France, qu'elles soient associatives, qu'elles se fassent dans le caritatif, comme l'histoire de l'association d'aide des musulmans, j'ai plus son nom. Qui a été
Ah oui, vous avez raison, le collectif.
Il y a eu plusieurs collectifs. Il y a le CCIF, évidemment.
Le CCIF, voilà.
Il y a le collectif Cheikh Yassine, pour les raisons qu'on comprend aujourd'hui avec l'assassinat de Paty. Il y a eu, évidemment, tout un tas d'organisations comme ça, les unes derrière les autres, qui sont tombées. Et il se trouve que cette politique générale qui a été conduite par le gouvernement Macron consiste à, pour calmer le jeu, en finir avec les extrémistes, c'est comme ça qu'ils sont perçus, musulmans d'un côté, donc l'islam politique, et les extrémistes d'extrême droite. Qui ont aussi pris très cher. Les mouvements identitaires ont tous été liquidés. C'est vous dire un peu le niveau. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a l'impression que Darmanin, qui a été reconduit dans ses fonctions quand même après l'élection présidentielle, alors que Macron n'a pas forcément été bien élu et son Assemblée n'est pas à la hauteur de ses espoirs, Darmanin est l'homme de main de Macron qui est destiné à liquider tous ces types d'organisations d'opposition de fait. Il ne veut plus entendre parler d'islamophobie. Elle portait ces messages-là. Il ne veut plus entendre parler d'antisémitisme. Donc, toutes ces questions sont posées aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une chasse à l'homme et que Iqoussen en fait partie. Maintenant, juste pour finir mon propos, Hassan Iqoussen, c'est quelqu'un qui est du Maroc, évidemment, qui est Chleuh, pour être très précis, qui est du sud du Maroc, qui a réussi plus ou moins bien sa vie. Il a réussi un petit peu à se faire un patrimoine immobilier, on le sait. On sort tous les dossiers le concernant. Qui a eu des propos, effectivement, un peu légers à une époque sur les femmes, sur les juifs, qui mélangent un peu lui aussi, malheureusement. C'est pas un antisémite, hein, j'y crois pas du tout, mais c'est quelqu'un qui a été léger dans ses propos et qui a donné sentiment de l'être. Et il se trouve aussi.
Il y a 10 ans.
Oui, il y a 10 ans. Mais la prescription ne s'appuie pas en vérité. Ça, ce qui n'est pas bon, c'est que la loi, la fameuse loi qui a été votée, la dernière loi sur les séparatismes, autorise de façon, finalement, à sortir du cadre légal, qu'un homme politique ou qu'un préfet puisse faire expulser une personne sans condamnation. Je rappelle qu'il n'est pas condamné. Alors, moi, je ne suis pas là pour le défendre, mais je note aussi que lui, alors c'est là où je suis très étonné de sa part, de cet homme, c'est que je le trouvais très léger. Parce que quand on prend des positions aussi radicales sur le terrain français, alors que j'ai appris, comme tout le monde, avec la surprise qu'on peut imaginer, qu'il n'était même pas français, il n'avait pas de carte française, c'est très surprenant. Je trouve qu'aujourd'hui, il a pris la fuite, semble-t-il, et il semblerait
en Belgique.
C'est ce qu'on dit. Le problème de la Belgique, c'est qu'il y a des conventions d'extradition. On est dans Schengen, donc il n'y a aucun problème. S'ils veulent le virer en France, ils le vireront. Et là, ma grande surprise que je viens d'apprendre ce soir avec vous, c'est le fait que le Maroc ait revu sa position initiale qui était à sauf-conduit pour le récupérer immédiatement, sachant qu'il est considéré comme imposant. Ça, c'est très surprenant et j'aimerais en savoir plus parce que ça m'a beaucoup surpris de voir que le Maroc ait suspendu cette convention pour récupérer Iqoussen, alors que dès le départ, sur la première tentative d'expulsion, il a été immédiatement. Ils ont répondu par la positive. Donc ça, c'était une surprise, j'aimerais en savoir plus.
Bon, bah écoutez, on va tâcher d'en savoir un peu plus. Karim Alouache, nous vous entendons aussi également sur l'expulsion de l'imam Hassan Iqoussen.
Moi, je ne le connaissais pas et ma position sur la religion, elle a toujours été la même. C'est du domaine privé et ça ne doit pas sortir dans la rue. Pour en revenir, alors moi aussi...
Sauf que là, c'est comme le rappelait Gamal Abina, c'est un conférencier qui est connu. Hein. Mais il est connu dans le milieu. Hein,
Oui, mais dans le milieu, moi je suis musulman et je ne le connais pas. Donc, mais peu importe, c'est pas, là n'est pas le sujet ou le débat. Moi aussi, j'ai été surpris d'apprendre qu'il n'était pas français. Et Ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le pays de résidence, quand vous avez un titre de séjour, il est soumis à révision. C'est pas un accord reconductible de manière tacite, ou c'est pas un accord de séjour, je dirais, à durée indéterminée. Donc quelque part, avec tout ce que l'on voit, tout ce que l'on sait, en plus il était fiché S. Mmh. J'ai envie de vous dire, il joue un peu avec le feu.
Je sais pas s'il savait qu'il était fiché S.
Je crois pas qu'il était fiché S.
Si, il est fiché S.
Oui, mais ça a été
confirmé.
Oui.
Bon. C'est possible. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'est pas condamné en France. Hein. Aujourd'hui, il n'est pas. Par exemple, s'il était français, il ne serait pas en justice. C'est une erreur de ma part, mais c'est ce que j'ai compris. Oui. Et au niveau de l'expulsion, en fait, c'est là où il y a eu quand même une subtilité.
Laquelle ?
C'est que il n'est pas expulsé ou expulsable parce qu'il a fait ça. Il est expulsé ou expulsable parce que il est en situation irrégulière, son titre de séjour. Et c'est en vue un refus de renouvellement, donc il a une assignation à quitter le territoire.
Le territoire.
Voilà. C'est, non mais il faut pas se tromper. C'est vraiment une procédure administrative. Et je pense qu'il est parti parce que la procédure là immédiate, c'était de le mettre dans un centre de rétention en vue d'une expulsion. Donc en attendant, il serait quand même en centre de rétention. Le retour arrière ou parce que j'ai vu aussi que il y a des sources diplomatiques qui disaient nous on n'a jamais délivré un sauf-conduit consulaire pour l'accueillir sur le territoire, d'autant plus que j'ai lu aussi qu'il aurait eu tenu des propos vis-à-vis du royaume du Maroc assez je dirais polémiques aussi là-dessus, donc je pense pas qu'il soit le bienvenu, mais c'est un peu un pied de nez du Maroc vis-à-vis de
mais sauf que le Maroc alors les discussions se poursuivent entre le Maroc entre la France et le Maroc sauf que le Maroc suspend s'il vous plaît suspend l'expulsion alors qu'est-ce qu'il adviendrait donc Aristan et Koussen alors du coup
il n'est plus expulsable.
Alors là, il y a un vrai problème là.
Ah bah oui.
Toujours expulsable, ça c'est pas le problème.
Bah non. Non, puisque les discussions se poursuivent entre la France et le Maroc.
Ce qui se passe, c'est que moi je vous dis, il est toujours expulsable. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose que vous savez très bien, Adil. Un Marocain, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, est Marocain. Il y a un principe qui avait été installé par Hassan II, c'est-à-dire que le Marocain, quelle que soit sa nationalité double, il reste aux yeux du pays. Un Marocain, preuve en est, quand on va au Maroc, et j'y suis allé souvent avec des personnes.
Non, mais lui, il n'a pas une double nationalité. Le sujet, il est même pas là.
Il a une simple nationalité. Non, mais c'est-à-dire qu'à plus forte raison. C'est-à-dire que le Marocain, même s'il était machin sur ce truc, de toute façon, il arrive au Maroc, il devient Marocain. C'est la nationalité française.
Sauf que là, il a raison, Karim Alouache.
Non, mais
il n'est pas français.
Ah, bah s'il était français, il n'y avait pas d'expulsion.
Il n'y avait pas d'expulsion. Non, mais sauf que là, il n'y a plus d'expulsion.
Ah non, mais s'il était français, il n'y a pas d'affaire.
Non, mais là, il y a un vrai dilemme. C'est-à-dire que là, pour le moment...
Je ne crois pas que les Marocains ne le récupéreront pas pour deux raisons. Même si là, ils font un petit numéro, il semblerait qu'il y a bien eu un sauf-conduit dans un premier temps. Il semblerait qu'il y ait une réflexion qui est conduite aujourd'hui parce que c'est quand même quelqu'un qui a une certaine audience. Mais je pense, et il y a d'autres affaires au Maroc, l'affaire Ali Arras, par exemple, qui avait été envoyée de Belgique en Espagne, d'Espagne expulsée au Maroc. Ça n'a pas surpris. Pour autant, il n'était pas coupable. Hein. On s'est rendu compte par la suite qu'il a subi, il était victime d'une injustice. Eh bien, il a quand même pris de la prison au Maroc. Ce qui se passe, c'est que les Marocains, ils ont un principe, c'est que le citoyen marocain à l'étranger doit se comporter comme il se doit. C'est ça qu'ils disent tout le temps. Et donc, s'il y a un problème, ils n'hésitent pas à le récupérer. C'est en cela que je suis très étonné de la suspension de ce sauf-conduit. Et si suspension il y a, c'est que ce sauf-conduit a bien été délivré. Donc, dans un premier temps, il a existé. Maintenant, il faut savoir quelle négociation il y a entre le gouvernement français et marocain, mais les relations entre les policiers.
Ah bah, je vais vous les dire. La suspension, donc, qui est tombée hier soir, elle est essentiellement axée sur des raisons de politique intérieure.
Intérieure voilà. Marocaine ou française ?
Le laissez-passer consulaire permettant son expulsion. Donc, on a appris, c'est ce que disent, hein, donc, après plusieurs informations qui sont tombées à Rabat. Donc, en gros, s'il est arrêté, Ekoussen ne peut plus être expulsé. Voilà, pour le moment.
Ah non, mais...
Et ça, c'est des sources policières françaises.
Mais ça n'empêche qu'il sera en France en centre de rétention. Ça, à mon avis, ils ne vont pas le laisser patienter chez lui, ne serait-ce que pour des raisons...
L'honneur de Darmanin, exactement. Quand même, chose qu'on n'a pas souligné. Attendez, une chose essentielle, excuse-moi, parce que là, je parle pas longtemps. Excuse-moi de t'embêter, Karim. Chose essentielle, quand même, qui, moi, m'impressionne. Cet homme qui depuis deux mois est inquiété par les services de police et par la justice et par le ministre de l'Intérieur, ce qui est quand même balèze, se prendre le ministre de l'Intérieur sur le dos, c'est dur. Cet homme depuis deux mois sur la sellette et il n'a pas été surveillé à son domicile. Je suis très sûr. Alors qu'il y a une procédure de surveillance, il est suivi comme un délinquant. Eh bien, il n'a pas été surveillé, il a pu partir. Alors ça, je dis chapeau. Soit il y a un dysfonctionnement de la police, soit ils ont laissé faire. Il y a une chose qui colle pas. Moi, j'ai du mal à comprendre.
Mais administrativement. Il est, de par cette décision, en situation régulière puisqu'il a un titre de séjour expiré et non renouvelable. Donc là-dessus, il est en situation régulière, comme quelqu'un qui sera
irrégulière.
Arrêté.
Pourquoi irrégulière?
Bah, parce qu'il est sans papier maintenant.
Non, irrégulière, donc.
Irrégulière. Okay, okay. Voilà, irrégulière. Et on reste dans le domaine administratif. Judiciairement, il n'a rien. Il n'y a pas, il y a même pas une plainte
non,
contre lui aujourd'hui qui est en cours.
Il n'y a aucune
moi,
décision.
Je pense que la suspension, du laissez-passer consulaire du Maroc, c'est un pied de nez, au gouvernement français pour lui dire bah, on a un sujet de visa, on a un sujet de ça, bah nous aussi, bah nous on en veut
ah,
pas.
Ah oui,
et,
ouais,
c'est et guerre, voilà, c'est un pied de nez. Oui, je dis pas qu'il n'y a pas de négociation, mais c'est un pied de nez
après,
pour dire.
En même temps, les OQTF, bah, ils veulent absolument.
Voilà. Alors, maintenant, c'est vrai que. Alors, soyons clairs, s'il avait une double nationalité, il n'était pas, pas expulsable.
Oui, français,
puisque pour être expulsé, il faut déjà qu'on lui enlève la nationalité française. Moi, ce qui me. Alors, un. Ça va faire jurisprudence. Je m'entends bien.
Oui,
pour ceux qui n'ont pas la nationalité française. Et un rappel de dire, c'est pas parce que vous avez un titre de séjour, mais ça c'est très général. Attention, les renouvellements de titres de séjour sont soumis à autorisation et c'est pas parce que vous séjournez en France depuis 20 ou 30 ans que vous allez rester. Vous savez à quoi ça me fait penser, moi, dans les années 80, à la double peine, vous savez, les étrangers,
la double peine,
effectivement. Les étrangers qui commettaient une connerie, hein, comme ça peut arriver, et puis donc qui faisaient un an, deux ans de prison, je sais pas, ou quelques mois, et puis à la sortie de prison, ils rentraient pas chez eux, on les emmenait à Orly, et direction le pays d'origine parce qu'ils étaient expulsés. C'est ce qu'on appelait la double peine. Je pense que certains d'entre vous en ont déjà croisé en Algérie ou ailleurs, etc. Donc ça, c'est pour ça que je considère que la décision du Conseil d'État est une décision extrêmement politique. C'est un message fort. Je vous rappelle qu'on avait attaqué les juges en disant que les juges étaient gauchistes et qu'ils empêchaient les exécutions de lois, etc., etc., etc.
Là, il
n'y
a pas soutre,
Mais, alors, justement, je m'apprêtais. C'est une affaire administrative et pas judiciaire.
Alors, justement, je m'apprêtais à vous poser la question, le fait que le Conseil d'État et valider la suspension, l'expulsion, pardon, de l'imam conférencier Hassan Ekoussen. Est-ce qu'il y a, quelle grille de lecture faut-il avoir? Est-ce qu'il y a une décision justement politique? C'était ma question.
Non, pas seulement. Non, sur le Conseil d'État, c'est pas là-dessus qu'ils ont statué. Ils ont statué sur le fait que, est-ce que oui ou non, ça a l'impact sur sa famille. Le Conseil d'État dit non, ça n'a pas d'impact, ça n'a rien à voir. Donc là, ils ont répondu que sur une question de procédure, et pas une question politique. Et ils vont pas déjuger Darmanin. Là, je te rejoindrai effectivement sur le plan politique.
Bien sûr, c'est en ça que c'est politique.
Ils vont pas déjuger. Et en même temps, ils ont statué sur une question de procédure. Je vais dire simplement une chose que j'ai envie d'ajouter parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Quelqu'un qui accède à la nationalité française par acquisition. C'est pareil, elle n'est pas définitive. Hein. On peut lui retirer. Il faut le savoir. C'est pas une obligation. Ils peuvent ne pas renouveler la carte.
Alors, ça, c'est quand tu es naturalisé.
Non, je parle de bien ça. De
oui, mais.
Qui accèdent à la société française.
Non, non, non.
Par naturalisation,
mais,
ils peuvent ne pas lui
renouveler la carte. Par exemple, les binationaux algériens nés en France ne sont pas naturalisés.
Sont
de droit français.
68,
voilà.
68,
exactement.
Pour revenir sur le fondamental, en règle générale, parce que là, la légèreté du personnage, là où il me choque le plus, c'est qu'il se savait non français. Moi, quand je lui ai parlé, ce qui m'a marqué, c'est qu'il m'a quand même dit ce truc-là. Il refuse de me donner mon titre de séjour depuis longtemps. Il faisait des renouvellements de un an, je crois, comme ça. Donc, déjà, il connaissait la vie. Et à ce moment-là, il n'a pas eu. C'était il y a 10 ans, quand même. Il n'avait pas eu la présence d'esprit de dire, ouais, il y a peut-être un risque. Et le risque aujourd'hui, il est consommé. Alors, ce qui se passe, c'est que je pense qu'ils se sont tous, je parle de ces leaders un peu musulmans, auto-intoxiqués. Parce qu'ils avaient un grand public qui se sont imaginés qu'ils étaient intouchables. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que cette auto-intoxication les a conduits à...
Bah, il y a eu cet été, hein. Il y a eu ces essais, justement, des signataires d'une tribune.
Tu l'as dit toi-même en 2014 quand il a répondu, mais il a une grande audience.
Voilà.
donc ça veut dire qu'on se présente avec n'importe qui, l'essentiel, c'est...
Vous êtes en train de nous dire, Gamal Abina, qu'il comptait justement sur cette audience.
C'est un soutien massif parce que cette impression de surpuissance qui ne vaut rien, on le voit bien dans les élections, il suffit de demander à Karim qui s'est présenté, le résultat n'est pas probant. C'est pas parce que tout le monde dit je t'aime, qui vont les aider. Preuve en est, ils veulent faire une manifestation qui va peut-être avoir lieu ce week-end, qui va être à minima, on le sait très bien, c'est quasiment plié. Pourquoi? Parce que ce qui a posé problème en termes de droit, et maintenant je parle de droit uniquement, pas du personnage, mais de droit, c'est qu'on a outrepassé les prérogatives d'un préfet ou d'un ministre intérieur qui se retrouvent surpuissants et qui font un déni de droit. Quand cette fameuse loi séparatisme est tombée, elle donne accès à toutes sortes de dérives, puisque finalement, quand on dit quelqu'un, ah, il a un discours séparatiste, il n'aime pas la laïcité, ah, il n'aime pas les femmes, toutes ces bêtises-là. Je veux dire, quelqu'un qui n'aime pas les femmes, bah, c'est un abruti, mais il ne mérite pas l'expulsion. Et bien, dans ce cas-là, c'est possible. Lui, on lui reproche quoi? Misogynie, des propos qui seraient réducteurs pour les femmes, qui réduiraient les femmes, je veux dire. Et second aspect, l'antisémitisme. Alors, l'antisémitisme, ça tombe sous le pénal, c'est comme le racisme. Mais il n'a pas été jugé. Donc là, on est tombé sur ce qu'on appelle une loi d'exception qui outrepasse les prérogatives du droit, à savoir les juges. Et là, il y a un problème.
Mais qui demain fera office de loi.
bien sûr, de fait.
Ouais. Bien sûr, c'est non, mais là-dessus, on va pas se mentir, c'est un message fort.
Karim Alouache, hein. Gamal Abina, justement, avant que vous oui. partiez, justement, je continue. On va accueillir nos auditeurs 01 53 48 3000 sur l'affaire, cette affaire donc d'expulsion concernant l'imam conférencier Hassan Ekoussen, et évidemment, et on le sait, le Maroc a suspendu donc l'expulsion. Dites-moi, je voudrais vous entendre sur la mort de Mikhail Gorbatchev.
Très rapidement.
Emmanuel Macron qui lui s'allume un homme de paix.
C'est normal. L'Occident, donc 20% du monde, hein, l'Occident se satisfait de la chute de l'Union soviétique parce que Gorbatchev, en 86...
Dernier dirigeant de l'URSS.
Dernier dirigeant, apparatchik, hein, c'est un mec qui...
Apparatchik.
Datcha. Donc cet homme-là est l'homme qui a enclenché après Tchernobyl la perestroïka et la glasnost, donc la transparence et en même temps les réformes. Sauf que l'Union soviétique, les Russes de l'époque, quand l'Union soviétique a chuté en 91... À ce moment-là, après le coup d'État, il y a eu un coup d'État de Galilée, et après, bah, ça a été Eltsine qui a pris le relais. Ça a été une catastrophe pour les Russes.
Boris Eltsine.
La perte de l'Empire russe a été difficile, mais là, socialement, ça a été une chute à telle enseigne que les Russes le détestent. C'est-à-dire que cet homme-là, quand sa femme Raïssa est morte, tout le monde s'en foutait. Lui, quand il meurt, tout le monde s'en fout. Il n'est célébré que du côté des vainqueurs, ceux qui ont vaincu l'Union soviétique. Alors, il est logique, évidemment, que les Russes le détestent parce qu'ils ont souffert pendant 8 ans d'une anarchie monumentale économiquement, d'une privatisation sauvage, d'un ultralibéralisme.
C'est vrai qu'économiquement, il a ruiné le pays.
Bah, clairement. Et plus que non, ça, il a enrichi des oligarques. Donc, ce qui se passe, c'est que d'un côté, il a libéralisé il a libéralisé les libertés générales, les libertés publiques, et de l'autre côté, il a détruit l'économie russe.
Et en même temps, il a eu un rôle crucial.
Mais totalement. C'est essentiel, pas crucial, essentiel.
La chute en direction de l'Europe, notamment, et du monde.
La chute de l'Union soviétique, c'est lui. Sans le vouloir.
Le drame.
Enfin, c'est lui quand même, c'est pas sans le vouloir, c'est lui.
Il voulait maintenir l'Union soviétique.
D'abord, en 85, quand il arrive au pouvoir, l'URSS est en faillite. C'est une catastrophe. Oui, 86 avec Tchernobyl, c'était une catastrophe. Lui, il a jamais voulu la chute de l'Empire.
Excusez-moi, les amis, je suis très grossier, c'est une première en plus.
Tu as juste une conférence téléphonique.
Voilà,
à tout à l'heure. Karim Alouache.
En fait, Mikhail Gorbatchev n'a jamais souhaité la chute de l'Empire soviétique. Il a souhaité moderniser l'URSS. Mmh. C'était ce qu'il voulait faire. Il n'a jamais voulu supprimer. Il voulait garder la Grande Russie avec des fédérations et il fallait surtout redresser l'économie, donc libéraliser. Et c'est le putsch de 91 où on l'a mis en retraite forcée, hein, voilà, avec Eltsine qui arrivait derrière et tout ce qu'on et toute la suite, que on lui a prêté ces mots de vouloir détruire l'Empire soviétique, mais ça n'a jamais été le cas. Et d'ailleurs, quand on passe de l'Empire de l'URSS à la chute de l'URSS avec la montée du drapeau russe, la Russie, les personnes présentes, les journalistes présents disaient, il était là dans un coin et il pleurait. Mmh. Parce qu'il ne voulait pas... c'est pas ce qu'il a voulu. Après, clairement, il a marqué l'histoire. Enfin, c'est lui qui a contribué à la chute du mur de Berlin, à la réunification des Allemagnes, à cette ouverture libérale. D'ailleurs,
donc il a eu une grande influence.
Entre guillemets, ce qu'on lui a reproché en Russie, les oligarques russes l'ont utilisé, puisqu'aujourd'hui, c'est les anciens du KGB ou de l'armée rouge qui ont repris le pouvoir, sauf qu'ils ont des costards et qu'ils sont transformés en hommes d'affaires au lieu d'être en militaire, tout simplement. Après, je trouve dommage qu'on ne lui reconnaisse pas ce qu'il a été. Ce qui avait étonné les Russes, le peuple soviétique à l'époque, je parle de soviétique pour la comparaison aujourd'hui avec les Russes, c'est que il était humain. Mmh. Avant, on était d'abord communiste, on était d'abord l'entité, un membre, un camarade. Lui, c'était un humain. Il a pensé aux gens et au peuple. Et c'est cette humanité qui l'a caractérisé et qui
l'a permis. Même si les Russes le détestaient, comme le disait Gamal Abina.
En fait, les Russes, non. C'est le système qui l'a détesté, pas le peuple. Parce que le peuple lui doit la liberté qu'il a aujourd'hui. Et ils sont passés quand même de l'Empire soviétique où on est enfermé avec la police politique, même si c'est pas une démocratie, on le sait tous. Mais c'est sans comparaison par rapport à ce qu'ils vivaient à l'époque. Et ça, on pourra jamais lui enlever. C'est dommage.
Parce qu'il fait partie de ces leaders rares, justement.
Ouais, moi, je pense qu'il fait.
De ses personnalités.
Il fait partie, comme à très peu de personnes dans ce monde, des grandes personnalités politiques mondiales qui ont changé le monde. Il a quand même changé le monde. Est-ce qu'avec un autre, la chute du mur de Berlin aurait été possible? Est-ce que la réunification des deux Allemagnes aurait été possible? Est-ce qu'avec une autre personne, l'URSS aurait peut-être attaqué l'Allemagne de l'Est en lui disant il est hors de question que tu fusionnes avec l'autre? Je pense que oui, tu vois. Donc, c'est pas pour rien qu'il a eu quand même le prix Nobel de la paix. Il fait partie des grands hommes, comme l'a été Gandhi, comme l'a été Nelson Mandela, et comme d'autres ont pu l'être dans le passé.
Et économiquement, il a réussi le virage, évidemment, économique.
Il est passé de la faillite, parce que la Russie était en, l'URSS était en faillite, à une puissance, à une des plus grandes puissances mondiales. Et on en a la preuve aujourd'hui, hein. Poutine, c'est pas lui qui a construit la Russie, hein. Le travail, il a été fait il y a 20 ans, hein.
C'est vrai, absolument.
Il y a 30 ans, parce que il a été amorcé dans les fins des années 80 par Gorbatchev. Et d'ailleurs, il a été courageux de le faire, parce qu'il a, il l'a fait envers et contre l'armée rouge et contre le KGB, hein.
J'aimerais juste lancer un sujet pour nos auditeurs, justement. C'est celui du gaz, parce qu'on va le traiter juste après la pub tout à l'heure. Mais je voudrais vous entendre au standard au 0153 48 3000 partout en France. Je vous attends pour parler du gaz. Alors, le gaz, Gazprom, ça y est, les Russes ont pris la décision, donc, évidemment, de continuer de lancer le gaz en France, notamment. Donc, est-ce qu'il y a une crainte? Donc, c'est officiel, hein, là, le russe Gazprom est suspendu à partir de demain. Suspendra complètement, hein, les livraisons, etc. Donc, est-ce qu'on peut craindre que cet hiver, eh bien, la France nous demande de faire des économies? Est-ce que aujourd'hui, on nous demande de revoir, de réduire, justement, c'est ce fameux terme qui a été utilisé par Emmanuel Macron, l'abondance? Nous allons connaître, évidemment, des périodes un peu plus compliquées. 01 53 48 3000. Est-ce que vous faites attention aujourd'hui à votre consommation énergétique, bref, dans votre quotidien? Est-ce que vous avez pris des mesures vous-même dans votre quotidien? 01 53 48 3000, y compris donc si vous voulez intervenir sur la mort de Mikhaïl Gorbatchev. Alors, quelles que soient les positions, parce elles ont été très clivées, Karim Alouache, justement, en Russie, sur Mikhaïl Gorbatchev.
Poutine qui envoie un simple télégramme.
C'est terrible.
C'est terrible. Et puis un pays, moi je trouve que c'est
pas normal.
C'est pas malin, parce que d'abord, alors c'est vrai qu'il avait condamné, semble-t-il, hein, en interne, la guerre en Ukraine, mais c'est terrible, un pays qui ne reconnaît pas ses grands hommes. Et ce qui fait un pays, c'est pas le pays lui-même, ce sont d'abord ses hommes, simplement. Et quoi qu'on en dise, il aura marqué l'histoire, il aura.
Mais quelle interprétation doit-on avoir d'un simple télégramme de Poutine concernant la mort?
Un mépris.
Mépris?
Moi, je trouve ça méprisant, mais ça ne le grandit pas. Et je pense que les jeunes générations ont un respect pour Gorbatchev, qui a quand même permis la libéralisation de la Russie, hein, et de ce qu'elle est devenue aujourd'hui.
On continue d'en parler à 01 53 48 3000. Les auditeurs ont la parole. 19h10, si vous venez de nous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Je vais accueillir Salim de Paris. Bonsoir Salim.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Comment se déroule cette rentrée, cette reprise, mon cher Salim?
Bon, très bien, avec le sourire, hein, comme d'habitude.
Hein, ça va, vous avez passé de bonnes vacances?
Non, on va pas partir, je pars jamais l'été.
Vous partez après?
Ah, toujours après, c'est meilleur, il y a moins de monde, on peut en profiter.
Bon, eh bien, écoutez, on vous souhaitera, si vous partez, de bonnes vacances. Salim, Inch'Allah, on vous si écoute, Inch'Allah, exactement. On vous écoute, Salim.
Je vous appelais par rapport au sujet du gaz, par rapport à faire des économies, des restrictions. Enfin, moi, personnellement, j'en ferai pas. Personnellement, je laisserai tourner tout ce qu'il y a. Bon, après, c'est pas moi qui a demandé qu'il rentre en conflit. Qui prennent des décisions sans nous consulter, puis même en faisant des économies, ils vont nous faire payer quand même la facture.
Ouais.
Donc alors autant tout laisser tourner. je vais être honnête.
Oui.
Après, il y a juste un truc que je vais être honnête avec vous, que je trouve que ils prennent des décisions sans nous consulter, puis c'est nous que derrière qu'on va faire des restrictions, qu'on doit faire des. On doit être toujours dans le côté de se débrouiller, malheureusement. C'est ça le problème en France. C'est ce que je reproche, c'est le côté qu'on doit se débrouiller. Et que pour eux, tout est facile et qu'en réalité, voilà. Donc après, comme je dirais, ils ont cherché, ils assument derrière leurs conséquences.
Ouais. Même si des mesures, il y a des mesures qui vont tomber dans les semaines à venir.
Bah, ouais, même si leurs mesures ils vont tomber, bah moi je laisserai tourner ce qui a tourné, hein, je vais pas me priver.
Ouais.
Pourquoi me priver, sincèrement, eux ils se privent pas. Ouais, ce que je veux
vous,
dire.
Votre politique, elle est très claire. C'est-à-dire que vous n'avez pas assumé évidemment les responsabilités des uns, les pots cassés, comme disent certains, des uns, et vous considérez que vous, voilà, vous n'avez pas à faire des économies quotidiennement.
Parce bah, que vous n'avez oui, pas. Moi, quand il m'envoie la facture, il me demande de payer, je paye. Donc, ouais. Comme je dirais, je paye une qualité et une prestation de service.
Oui.
Voilà, c'est tout. Après, je n'ai pas à faire d'économies. C'est leur problème, c'est à eux d'y faire face. C'est quasi... moi, sincèrement, je le prends comment? Je vais vous le dire sincèrement. Si d'à cause d'eux, on ne pourra pas se chauffer, qu'ils vont faire des coupures, c'est... Excusez-moi, mais entre parenthèses, je le considère comme une non-assistance à personne en danger.
Oui, oui, oui.
Bah oui, je sais pas. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont mourir de froid. Il y en a, ils vont pas... Ou peut-être qu'il y a des personnes qui sont malades, qui ont besoin d'avoir des pièces chauffées. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Donc, quelque part, c'est de la non-assistance à personne en danger. C'est sacrifier des gens. C'est inhumain.
Oui.
C'est inhumain. Moi, je trouve pas ça normal. On est au 21e siècle. On, oui. est dans, on a régressé dans le 16e siècle. À l'époque comme à l'époque du Moyen-Âge. Ouais. Les riches, ils vont se chauffer. Et les pauvres, eh ben, ils vont être obligés de sortir des bûches en bois. Vous trouvez ça normal?
Oui. Ben Salim, je vais solliciter nos auditeurs partout en France. Est-ce qu'ils trouvent ça normal? Est-ce qu'ils partagent votre point de vue? Merci à Salim d'être intervenu.
Excusez-moi, par contre, je peux juste dire un petit truc.
Oui.
Voilà, j'aurais aimé, franchement, si il y a des gens placés dans le gouvernement qui entendent la radio actuellement. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est la question que je me pose, la France intervient pour aider les Ukrainiens, ce qui est normal, etc., le conflit de guerre. Mais pourquoi ils n'interviennent pas pour solutionner le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens? Ils leur donnent des aides, et pourquoi de l'autre côté on ne leur donne pas des aides?
Eh bien écoutez, la question...
C'est la question que vous avez posée,
j'espère qu'un des responsables vous écoute et on lui propose de venir répondre. 0153 48 3000. Merci Salim. À bientôt. 0153 48 3000, vous continuez de nous appeler, d'intervenir. Et puis Karim Aloua, je voudrais vous entendre justement sur l'intervention de Salim de Paris. Je lance la pub. À tout de suite. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h21, justement, si vous venez de le retrouver, sachez, le nouvel horaire, c'est à noter, à inscrire dans vos agendas, 18h, 19h30, le nouvel horaire des informés. 0153 48 3000, vous continuez de nous appeler pour tout simplement répondre à cette question, comme l'a fait Salim de Paris. Salim de Paris, qui lui nous a appelé, nous dit clairement qu'il ne fera pas d'économie, qu'il ne prêtera pas attention à la manière dont il pratique l'énergie et puis le gaz et puis tout le reste de façon quotidienne. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas porter cette responsabilité. Vous aussi, on vous attend. Est-ce que vous faites comme Salim ou est-ce que vous avez décidé d'appliquer ce que l'État nous demande, c'est-à-dire de veiller quotidiennement à la manière dont on utilise notre énergie? Karim Alouach, vous voulez intervenir sur la réaction de Salim de Paris?
Moi, j'ai envie de vous dire, tout d'abord, les Français n'ont pas attendu sa situation pour faire attention. On sait que l'énergie coûte cher et il y a un grand nombre de Français qui ont déjà du mal à payer leurs factures. Donc, ils font déjà attention et ils ont déjà pris des mesures bien avant toutes ces crises, hein, même le Covid, pour ne pas gaspiller les énergies. Maintenant, on a la chance d'être quand même dans un pays qui a une production nucléaire et Dieu merci, on ne l'a pas abandonné, même si on n'a pas investi et réinvesti pour entretenir nos réacteurs. Je crois qu'il y a à peu près la moitié de nos réacteurs qui sont à l'arrêt pour cause d'entretien ou de petits soucis d'entretien et autres. C'est la preuve quand même que d'abord l'énergie nucléaire c'est l'énergie qui pollue le moins. C'est une énergie qui n'est pas carbonée, qui ne produit pas ou quasiment pas de CO2 et ce qui nous permet de garder nos souverainetés énergétiques. En plus, vous savez, après la crise du Covid, on a dit on dépend trop de la Chine, etc. Il faut réindustrialiser la France, donc re-besoin d'énergie. Et puis, moi, je pense à tous ceux qui ont prôné de manière complètement aveugle le tout électrique, la voiture électrique. Je vous rappelle quand même que si toutes nos centrales nucléaires tournaient à plein pot, il y a à peu près 40 millions de voitures en France, 40 millions de véhicules électriques. Nos centrales nucléaires actuellement ne suffiraient pas pour recharger simplement les véhicules. Puis alors, je repense à autre chose aussi. On nous dit il faut se chauffer au bois et autres. Je vous rappelle que si je dis pas de bêtises, la maire de Paris voulait interdire les cheminées, voulait faire fermer les cheminées parce que encore une énergie qui pollue, etc. La réalité c'est quoi? La réalité c'est que on a, Dieu merci, une souveraineté grâce aux centrales nucléaires. Et il faut relancer maintenant de grands, je dirais, projets nucléaires. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le futur. Ça ne va pas s'arrêter. Ça me remet en question beaucoup de choses. La voiture électrique. Moi, je ne demande que ça. J'arrête pas de dire, au lieu de parler de voiture électrique, il faudrait reparler de transport en commun. Mmh. Refaire des transports en commun. Il y a 20 ans, on prenait pas les bagnoles pour aller sur Paris. Quand on allait travailler à Paris, on prenait le métro ou le RER. Mmh. Et tout le monde en était hyper content. Personne touchait à sa voiture. La voiture, c'était le week-end, pour aller en dehors de Paris d'ailleurs, ou pour faire ses courses. Pourquoi maintenant on en est arrivé à prendre ses voitures? Parce que les transports en commun ne fonctionnent pas bien, ils sont souvent en panne, beaucoup de retard, des grèves, de l'insécurité, de l'insalubrité dans les transports en commun. C'est pour ça que les gens prennent leur voiture. Et tant qu'on s'attaquera pas à ça, on réglera rien.
Justement,
d'un point de vue écologique.
En parlant d'énergie, vous savez que le géant russe a notifié au groupe français ne pas avoir reçu en intégralité les sommes financières dues pour les livraisons. Alors le russe Gazprom, eux, ils rigolent pas. Ils ont dit, on suspend dès demain. Je parle demain. Complètement les livraisons au groupe français Engie. C'est chaud?
Non, c'est pas chaud parce qu'il y a d'autres sources d'alimentation.
Fermeture des vannes, ça veut dire.
Macron, il n'est pas allé en Algérie pour rien. On sait tous que.
Sauf qu'on a eu l'ambassadeur chargé de la Méditerranée. Il nous a dit que ça. Voilà. C'est pas finalisé. Hein,
non, mais on est bien dupe. L'objet du voyage. Je te rappelle que Macron est resté quand même 3 jours. À part la visite de Disco Maghreb, d'ailleurs, je suis un peu navré que. On réduise l'image de l'Algérie au rap. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à aller voir en Algérie que Disco Maghreb et de faire référence à DJ Snake en France. Je n'ai rien contre
après,
ça.
Après, Disco Maghreb, c'est le fief quand même de production. Tous les plus grands aujourd'hui sont passés par là.
L'Algérie, ce n'est pas le rail. L'Algérie ne se résume pas au rail. Voilà. Et à un moment donné, faut arrêter.
Mais le rail, c'est aussi l'histoire de l'Algérie.
En Algérie, c'est
mais le rail, c'est aussi l'histoire de l'Algérie.
Alors l'Algérien, c'est ou le footballeur, ou le rail en Algérie, ou le rappeur en France. Il y a complètement autre chose. Ça, c'était un peu pour détourner le vrai sujet. Le vrai sujet, et le seul sujet de ce voyage, c'est pas l'histoire, c'est rien du tout. C'est le gaz, parce que le gaz, c'est quand même un enjeu énergétique majeur.
Oui.
Je vous rappelle qu'on est en train de réindustrialiser l'Europe. Ça va prendre des années. Ça, c'est la conséquence du Covid. Maintenant, si on n'a pas
d'énergie... Maintenant que le géant russe ferme les vannes, qu'est-ce qu'on fait?
Il y a l'Algérie, il y a d'autres pays qui fourniront. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Il n'y aura pas de coupure en France. C'est le discours, il est alarmiste pour être préventif. Mais les gens... ont une attitude aujourd'hui, ils laissent pas tourner la gazinière pour laisser tourner la gazinière. Les gens n'y arrivent plus déjà, ça fait plusieurs années. Les gens n'y arrivent plus. Donc les gens ont déjà pris ces mesures et j'ai envie de dire, ils sont déjà au taquet là-dessus. On parlait. Par contre, il y a une chose que personne n'a relevé. On nous a ouvert à la concurrence le gaz, l'électricité, etc. Et Iberdrola résilie tous les contrats des Français, ça choque personne. Et personne ne réagit. Pas normal. Bien alors là, c'est le fournisseur espagnol de gaz.
Alors vous savez...
Où est l'Europe là-dedans?
Où est la libre concurrence?
Ça aussi, ça va faire changer les comportements.
La première ministre Elisabeth Borne, elle veut rassurer les Français. Et surtout les clients d'Engie. Elle dit que le groupe français a trouvé d'autres sources d'approvisionnement sans préciser lesquelles. Est-ce que c'est normal de tenir ce type de déclaration?
Ah mais moi, je ne suis pas du tout inquiet. Engie livrera du gaz à ses clients. Il n'y a aucun problème. Et je dirais même que tous les Français seront alimentés. Il n'y aura pas de difficulté. Les mesures, les Français gèrent ça depuis des années. Là, c'est terrible. Je voyais dans ma rue, tous mes voisins se font livrer du bois d'ester et d'ester.
On parle de... Attention, Karim Alouache, on parle de 40% des importations gazières. Ben, d'accord.
Il y a d'autres fournisseurs, c'est une question de prix. Vous savez, la Russie était un partenaire privilégié parce qu'il offrait des prix aussi intéressants.
C'est mais, ça. Défiant ou concurrence.
On n'aura pas de pénurie de gaz. Ça va être une question de prix, c'est tout.
Merci Karim Alouache, au plaisir de vous retrouver sur l'antenne, 19h30 déjà.
Bah, au plaisir. Hein,
qu'est-ce qui vous attend dans les prochains jours? La reprise déjà?
Bah, la reprise c'est déjà fait, des voyages nombreux en perspective, dans le cas de mes activités. Et puis une association dont j'ai pris la présidence récemment.
Laquelle?
Qui s'appelle Atlas, Algérien.
Ah oui, Atlas, on connaît.
Association. On connaît. On va essayer.
Donc, monsieur le président, désormais.
C'est une. Voilà. Il me manquait cette casquette associative et, ouais. Et c'est fait aujourd'hui.
Eh bien, écoutez, monsieur, le fraîchement élu, monsieur le président. Voilà, donc, au plaisir de vous retrouver.
À bientôt.
À bientôt. Merci à la réalisation, à Tarek. Merci à vous, auditeurs. 01-53-48-3000. On remet ça dès demain, vous le savez, avec autant de plaisir. Mais d'ici là. On ne lâche rien. Notez bien l'horaire. 18h, 19h30. À demain. Prenez soin de vous. Bilal Nedman et Thème Sport vous donnent rendez-vous à 20h. 20h, 21h. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.